Chapitre 4 Où je le revois enfin. Rentré dans ma cellule, je songeais longtemps au pauvre garçon que je n'avais fait qu'entrevoir, et je dis même pour lui une courte prière. J'aurais bien voulu savoir quel était cet homme, et pourquoi on l'avait condamné à mort, mais le gardien que j'interrogeais me répondit d'un ton brutal « Cela vous regarde pas. C'était un numéro de votre genre, et vous pourriez bien un jour suivre le même chemin que lui. » Je n'insistai pas. Pendant plusieurs jours, je demeurai très troublé. L'adieu que m'avait lancé cet inconnu au seuil de la mort m'avait probablement profondément remué, et je regrettais de ne pas lui avoir adressé les paroles de paix que l'on dit au chevet des agonisants. Cet homme était mon frère, après tout, un frère malheureux, que la fatalité avait sans doute poursuivi dès sa naissance. Je revois toujours son visage pâle et ses grands yeux qui ressemblaient à deux trous noirs. J'ai su plus tard, en consultant les journaux de l'époque, qu'il s'appelait Gulf, un nom prédestiné. Avec un nom pareil, pouvait-il aller autre part qu'à l'abîme? Mal remis de ma fluxion de poitrine, anémié par le manque de nourriture, épuisé par le travail meurtrier du treadmill, je n'avais plus figure humaine. En dehors des heures de retravail, j'étais toujours étendu sur mon lit. À force de vivre dans l'isolement et d'arrêter mon attention sur les moindres bruits, mon oreille était devenue d'une finesse extraordinaire, et cela au point que je ne pouvais presque plus dormir car le plus léger frôlement me réveillait. Un soir, après une journée terriblement fatigante, je commençais à fermer les yeux quand un petit coup sec, suivi immédiatement de trois autres, puis de trois autres encore, attira mon attention. Cela était assez rapide, mais toujours très régulier, rythmé selon une certaine cadence. Toc, 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 toc. Celui qui frappait devait se servir de ses doigts et le bruit était tout proche. Il semblait venir de la cellule qui se trouvait à ma droite. J'avais souvent entendu dire que parfois les détenus dans les maisons centrales s'entretiennent entre eux au moyen d'un ABC appelé « correspondence knock ». À tout un hasard, je me suis mis à compter les coups en les faisant correspondre dans mon esprit aux lettres de l'alphabet. Tout d'abord, je n'obtins que des phrases confuses, qui n'avaient aucun sens, mais comme les frappements continuaient, je parvins à en assembler quelques-unes, parmi lesquelles je distinguais très nettement les mots suivants. Ami, ami, écoutez, vous aussi, répondez. Je me levai, m'approchai de la muraille, et avec mon index replié, tapai plusieurs coups qui voulaient dire « Qui êtes-vous ? » On répondit aussitôt et je déchiffrai un nom, Crafty. Et quoi ? C'était mon compagnon d'infirmerie qui voulait causer avec moi, mais qu'avait-il à me dire ? Au moment où il allait frapper de nouveau, un gardien qui faisait sa ronde passa dans le couloir. Peut-être avait-il entendu quelque chose, car il demeura assez longtemps immobile devant ma cellule. Il s'éloigna enfin, et quand la lueur jaune de son falot eut cessé d'éclairer la petite ouverture circulaire placée au-dessus de ma porte, je repris avec mon voisin la conversation interrompue. J'eus pendant un certain temps beaucoup de peine à saisir ce que Crafty voulait me dire, mais j'y arrivais enfin grâce à cette curieuse faculté d'intuition que les prisonniers arrivent à acquérir. Et voici ce que m'apprit mon camarade. Il était parvenu à s'emparer de mes bottines et les avait rapportées de l'atelier. Pour les cacher, il avait soulevé la trappe qui faisait communiquer sa cellule avec le treadmill. Il était sûr que l'on ne pouvait les découvrir, car elles étaient placées dans une anfractuosité de la muraille au niveau de l'arbre de couche du moulin. Il me donna ses indications, moitié en frappant, moitié en collant sa bouche à la muraille et en parlant très bas. Ainsi mon diamant était là, à 2 mètres de moi à peine. Une planche seule m'en séparait. Mais était-il sûr que j'allais le retrouver? N'avait-il pas disparu du talon qui le contenait? Pourvu au moins que les cordonniers de la prison n'aient pas eu l'idée de ressemeler mes chaussures. On devine l'angoisse qui s'était emparée de moi. Je demandai à Crafty comment il s'y était pris pour ouvrir la trappe, et il me donna aussitôt le moyen de soulever la mienne, mais soit que le système de fermeture ne fût pas le même dans les 2 cellules, soit que je ne susse point m'y prendre, je n'arrivais pas à faire jouer le fermeture qui supportait énorme bloc de chêne. Je passai une nuit épouvantable, et je me relevais même plusieurs fois pour me livrer de nouveaux essais qui ne donnèrent aucun résultat. Pour la première fois depuis que j'étais à Reading, j'attendis avec une impatience folle le coup de cloche qui annonçait le treadmill. Enfin, il retentit et notre box s'ouvrit. Au lieu de m'installer sur la sellette de fer, comme je le faisais chaque jour, je me glissais entre la muraille et la roue et parvins, en m'aplatissant comme un chat qui passe sous une porte à atteindre l'endroit où Crafty avait caché mes bottines. Je les saisis d'une main prompte et je les glissais entre ma chemise et ma peau, puis je m'apprêtais à regagner ma place, mais à ce moment, le surveillant lançait son terrible « Take care, forwards !» La roue allait se mettre en mouvement. J'eus l'idée de crier et d'appeler à l'aide, mais je compris que tout était inutile. Déjà, l'énorme treuil démarrait en grinçant, actionné par les pieds des détenus. Aujourd'hui encore, quand je songe à cette minute terrible et folante, je me demande comment j'arrivais, sans me faire broyer, à atteindre l'extrémité inférieure de cette sellette, à m'y hisser et à reprendre avec les autres condamnés la cadence du moulin. Cela est pour moi une énigme. Tout ce que je me rappelle, c'est que quand le supplice eut pris fin, j'avais les mains et les genoux en sang. Mais à ce moment, j'étais insensible à tout. J'eusse été écorché vif que je ne m'en serais même pas aperçu. Je n'avais qu'un désir, retrouver mon diamant, le prendre dans ma main, le contempler longuement à la lumière diffuse qui passait par mon vasistas. 7 minutes arriva enfin, et j'oubliais toutes mes souffrances, toutes mes angoisses. Les ouvriers de la cordonnerie n'avaient pas touché à mes chaussures. Elles étaient intactes et je retrouvais la petite rondelle de cuir vissée sous le talon droit, telle que je l'avais laissée. Cependant, elle tenait bien et, pour l'arracher, il m'eût fallu un outil. Je la rongeais avec mes dents et parvins à extraire le diamant de sa gangue. Dieu, qu'il me parut beau! Comme il brillait! Quels feux il jetait! On eût dit un soleil. Je le baisais à plusieurs reprises dans une sorte de joie fébrile. Et telle était mon exaltation que je n'entendais plus rien de ce qui se passait autour de moi. Je n'entendais même point ce pauvre Crafty qui frappait au mur comme un sourd pour me demander si j'avais retrouvé mes bottines. Quand je fus enfin revenu à la raison, je lui répondis, mais comme il avait l'air de vouloir prolonger la conversation, je prétextai un malaise subit pour qu'il me laissât en paix. Cependant, la première effervescence calmée, je me sentis de nouveau en proie à une mortelle inquiétude. Où cacher mon diamant? L'administration de la geôle de Reading n'a pas jugé à propos de mettre des poches à nos vêtements, et les sandales qu'elle nous alloue n'ont même pas de talons. Je ne pouvais donc replacer le régent dans sa niche, car pour cela j'eusse été obligé de conserver mes bottines, et il n'y fallait pas songer. Toute la nuit, je réfléchis, tenant mon diamant dans ma main. Enfin, au jour, je trouvai une cachette provisoire. Je le glissai dans mon travers, sain, et logeai mes bottines dans ma paillasse. Au coup de cloche annonçant le treadmill, j'étais le premier installé sur ma sellette, et je pédalais ce jour-là avec une ardeur juvénile. J'aurais, je crois, pédalé toute la journée sans éprouver la moindre fatigue. Tant il est vrai que le moral commande en maître au physique et que les défaillances du corps proviennent presque toujours d'une mauvaise disposition d'esprit. Une subite transformation s'était opérée en moi. J'avais rajeuni de 10 ans. Il faut croire que la joie que j'avais au cœur se reflétait sur mon visage, car le gardien Jim, qui m'apportait chaque jour ma cruche d'eau, s'écria dès qu'il ouvrit la porte « Peste 33, oh, vous avez l'air joliment heureux aujourd'hui. Est-ce que votre libération serait proche ?»« Oh, hélas, non, répondis-je. J'ai encore, je crois, plus d'un millier de jours à tirer. Mais j'ai reconnu qu'il était stupide de se faire du mauvais sang. Bien sûr, murmura le gardien en jetant autour de lui un coup d'œil méfiant. Il y a des détenus ici qui se minent, ils ont bien tort. Aussi ils tombent malades et finissent par se laisser glisser. Encore deux ce matin qui sont allés dormir sous la pelouse de Green Park. C'est effrayant ce que ça se dégarnit ici. Bientôt, il n'y aura plus assez de monde pour faire marcher le treadmill. » Et le gardien sortit en chantonnant. C'était la première fois que cet homme m'adressait la parole, et j'en conclus que s'il ne me parlait jamais, c'était à cause de mon air maussade et triste. On aime guère les faces ténébreuses, et souvent, au lieu d'attirer la pitié, elles n'inspirent à certaines gens que du dédain et parfois de la haine. Depuis que j'étais en possession de mon diamant, je vivais une vie nouvelle, faite de résignation et d'espoir surtout. Les beaux projets que j'avais naguère abandonnés, je les reprenais l'un après l'autre, et je me remettais à penser à Edith. Oui, à mesure que mon sang recommençait à bouillonner, je songeais à l'amour que je croyais avoir enterré définitivement le jour où j'avais franchi le seuil de la geôle de Reading. Edith, à présent, occupait avec le diamant toutes mes pensées, et je ne désespérais pas de la reconquérir. Maintenant, je pourrais tout lui dire, lui révéler mes fautes passées. D'abord, elle me repousserait, cela était à peu près certain. Cependant, quand je ferais miroiter à ses yeux, non pas un diamant, car les femmes sont trop bavardes, mais la radieuse existence que je pouvais lui offrir, elle serait sans doute désarmée. Son rigorisme ne tiendrait point devant des millions. Ce qui d'ailleurs m'incitait à supposer que je ne lui faisais pas tout à fait horreur, c'est que lors de mon procès, où elle avait été bien entendu citée comme témoin, elle ne m'avait point chargé. Je me rappelle même qu'à une question d'un des juges qui lui demandait ce qu'elle pensait de moi, elle avait répondu « Monsieur Edgar Pipe est peut-être un malhonnête homme et je suis obligé de reconnaître qu'il a un cœur d'or. » Or, une femme qui trouve que l'on a un cœur d'or ne peut vous tenir rigueur de quelques peccadilles. Cependant, le temps avait marché depuis que j'avais quitté Edith. Elle avait certainement rencontré un nouveau protecteur, car elle détestait la solitude et elle devait avoir oublié déjà le malheureux Edgar Pipe. Je me trouverais donc en face d'un rival qu'il serait pourtant, je crois, assez facile de supplanter, à moins qu'il ne fût un nabab, ce qui me paraissait peu probable. Enfin, nous verrions. Il était possible aussi que je rencontrasse une autre édite qui me ferait vite oublier la première. J'avais d'ailleurs l'intention de quitter l'Angleterre et d'aller faire un séjour aux Indes, où j'espérais vendre mon diamant à quelque maharaja multimillionnaire. Une ombre, cependant, obscurcissait ces jolis projets d'avenir, Manzana. Le drôle pouvait me guetter à ma sortie de prison, s'attacher à mes pas et empoisonner de nouveau mon existence. Comme il n'avait pas été question du diamant au procès, et que depuis aucun journal n'avait annoncé qu'on l'eût découvert sur le condamné de Reading, il demeurait persuadé que je l'avais vendu, que j'avais caché l'argent quelque part, et, de complicité avec cet affreux Bill Sharper, il essaierait encore de me faire chanter. Qui sait même si, en désespoir de cause, il ne me dénoncerait pas à la police française. La prescription n'était pas encore acquise et l'on m'arrêterait sûrement. Il est vrai qu'il faudrait prouver que c'était moi le voleur du Regent. Or, qui m'accuserait? Manzana. Testis unus, testis nullus. Un seul témoin, aucun témoin. Toutes ces noires réflexions firent par affluer sur mon moral et me rendirent de nouveau taciturne et maussade. Je ne retrouvais un peu de tranquillité que lorsque je songeais à cette fameuse fête du New Year's Day dont m'avait parlé le pasteur. Si, à cette occasion, j'avais la chance de bénéficier d'une réduction de peine, j'étais sauvé car Manzana, qui me croyait condamné pour 5 ans, me manquerait à la sortie. Au moment où j'aurais eu besoin de toute ma tranquillité d'esprit, voilà que justement j'étais tracassé, tourmenté par mon ami Crafty, qui me demandait à chaque instant à travers la muraille « À quand notre évasion? Vous en occupez-vous? Je ne puis plus résister au Tradeville. Si nous ne quittons pas cette maudite prison, je serai mort avant un mois. » J'essayais de le rassurer, et j'y réussis pendant quelques jours, mais le pauvre garçon devenait de plus en plus pressant. « Hâtez-vous, disait-il, je suis décidé à tout. » Certes, moi aussi j'étais décidé à tout, mais pas pour l'instant. Le pasteur, dont je recevais la visite 3 fois par semaine, s'occupait toujours de moi et se faisait fort d'obtenir ma grâce en raison de ma bonne conduite et de mon sincère repentir. Devais-je, par une tentative d'évasion qui avorterait sans doute, compromettre une affaire qui s'annonçait si bien? Devais-je, pour tenir place à Creftarol à Crefty, m'exposer à voir ma peine doublée et laisser mes os à Reading? Mais cependant, le pauvre Crafty s'impatientait. « Voyons, pour quand ?» demandait-il. « Je vous assure que je n'en puis plus, mes forces sont à bout. » Pendant plusieurs jours, il frappa furieusement au mur, exigeant une réponse que je donnais immédiatement et qui tenait toujours dans ces 4 mots « Patience, l'heure est proche. » Puis les coups cessèrent. La cellule devint silencieuse. J'appris que Crafty avait été transporté à l'infirmerie. « Bah, me disais-je, il se reposera pendant quelques semaines. » Au fond, je n'étais point fâché de ne plus être obligé de lui répondre. J'avais cru m'apercevoir qu'un gardien que nous avions surnommé « Œil de crabe » s'arrêtait souvent dans le couloir entre la cellule de Crafty et la mienne, sans doute pour nous épier. Un jour ou l'autre, il nous aurait surpris, et mes notes de conduite eussent été diminuées de plusieurs points, ce qui était la façon de punir les condamnés qui attendaient leur conditionnel. La fête du New Year's Day approchait et ce n'était pas le moment de se faire signaler au surveillant général. Chapitre 5. Pauvre Crafty. Ma seule préoccupation pour l'instant était de me débarrasser de mes bottines. Nous aurions sûrement avant peu une visite de Littry et il était temps que je les fisse disparaître. Je les déchirai donc à coups de dents, roulai les semelles, les aplatis en pesant dessus de tout mon poids et en fis une sorte de boule que je lançai à l'heure du travail dans le trou du treadmill. Si l'on retrouvait quelque jour ce paquet informe, on supposerait qu'il avait été déchiqueté par les rats, très nombreux à Reading, à cause du voisinage de la Tamise. Restait mon diamant. Je le roulais dans le pan de devant de ma chemise et l'attachais solidement au moyen de deux ou trois lisières arrachées à mes sandales. Bien malin serait celui qui viendrait les chercher là. D'ailleurs, ce n'était qu'une cachette provisoire, car j'avais l'intention de soulever une lame de parquet et de l'introduire dessous, mais cela demanderait de longues heures de travail. J'étais à peu près tranquille pour le moment. Cependant, la fatigue ne tarda pas à me reprendre et j'eus de fréquents étourdissements. Une fois même, je dus m'évanouir, car je me retrouvais couché sur le plancher de ma cellule, la tête près de la porte. Par bonheur, aucun gardien ne m'avait aperçu. Si œil de crabe avait eu la malencontreuse idée de regarder par le guichet de mon box, il aurait aussitôt appelé, croyant que j'avais voulu me donner la mort, et on m'eût incontinemment transporté à l'infirmerie. Là, on m'aurait aussitôt déshabillé pour me mettre au lit, et mon diamant eût certainement été découvert. Je devais, sans tarder, le mettre en lieu sûr, et c'est ce que je fis. Mais comme je n'arrivais pas à soulever le lamelle du parquet, je le calai solidement dans la partie inférieure de la planche inclinée qui garnissait la fenêtre de ma cellule. Maintenant, je pouvais m'évanouir tout à mon aise, le diamant était en sûreté. Je n'avais plus qu'une crainte, bon, je devenais méfiant en diable, c'était qu'on me transportât à l'infirmerie, que je n'y demeurasse plusieurs semaines et qu'une fois que je serais rétabli, on ne me changeât de cellule. Mais cette éventualité ne se produirait certainement point. Je dépérissais de jour en jour et les troubles que je signalais devenaient plus fréquents. Il m'arrivait parfois de tomber brusquement comme si j'avais reçu un coup de massue et je perdais connaissance pendant quelques minutes. Quand je revenais à moi, j'y voyais à peine et mes oreilles bourdonnaient avec une telle force que je n'entendais plus rien. J'étais en outre agité d'un tremblement convulsif des jambes et me trémoussais de façon désordonnée. Quand vous aurez fini de danser, me dit un jour œil de crabe, qui m'observait par le guichet. Lorsqu'il vit que, malgré son avertissement, je n'en continuais pas moins à gigoter, il appela le surveillant-chef. « Mais vous ne voyez donc pas, dit le gradé, que cet homme est atteint de Quaker's Dance. Allez vite, cherchez le docteur Blurdever. » J'appris bientôt par ce digne praticien, un petit vieillard paternel et doux, que le Quaker's Dance, qui a beaucoup d'analogie avec le delirium tremens des alcooliques, est une maladie très commune à Reading. Elle est, paraît-il, provoquée par l'anémie des prisons et le tremblement qui l'accompagne est dû au travail épuisant du treadmill. Lorsque l'on a tourné le moulin, on conserve toute sa vie dans les jambes un petit sautillement auquel les gens de police ne se trompent jamais. Pour ma part, j'ai eu la chance d'échapper à cette dégradante infirmité parce que j'étais jeune et vigoureux. Mais combien de pauvres détenus en sont restés affligés. Mon ami, me dit le bon docteur Murderer, tous les médicaments que je pourrais vous donner ne vous procureraient aucun soulagement. Il n'y a qu'un remède, la liberté. Néanmoins, comme le règlement m'autorise à vous exempter de trade mill, un jour sur deux, je vais donner des ordres en conséquence. Et il me quitta en hochant tristement la tête. La liberté, oui, je le savais aussi bien que lui. Il n'y avait qu'elle qui pût me guérir, mais arriverait-elle assez vite? Le lendemain, je n'allais pas au moulin, et je profitais de ce jour de repos pour demeurer étendu sur mon lit. J'aurais bien voulu dormir, mais depuis longtemps le sommeil me fuyait. Je m'assoupissais pendant quelques minutes, puis me réveillais en sursaut, trempé de sueur, en proie à une soif ardente que je ne parvenais pas à apaiser, bien que je vidasse régulièrement ma cruche d'eau chaque jour. Ce qui m'était surtout désagréable, c'était d'entendre le maudit cario de Reading, qui toutes les heures répétait les premières mesures d'un hymne intitulé « Nearer to thee, my God »« Plus près de toi, mon Dieu » et qui me rappelait ce que l'homme cherche toujours à oublier, c'est-à-dire le grand saut dans l'éternité. Je trouve vraiment que les philanthropes qui ont présidé à l'installation de la geôle modèle de Reading auraient pu se dispenser d'ajouter cette note lugubre à tout leur arsenal de torture. Pour le prisonnier, l'heure qui sonne est une distraction. Elle apporte aussi avec elle un espoir. Une de moins, songe le malheureux détenu. Et cette fuite du temps, trop lente à son gré, lui semble malgré tout bien douce, puisqu'elle le rapproche insensiblement du jour où il quittera sa défroque de clown pour retourner parmi les vivants. Et pourquoi faut-il qu'un horrible carillon vienne toutes les 60 minutes égrener ses tintements sinistres, comme pour dire au prisonnier avec une cruelle ironie? Tu peux compter les heures, va, mais il en est une que bientôt tu n'entendras pour la dernière fois. La loi anglaise est bien dure pour ce qu'elle frappe, et il ne serait pas trop tôt qu'elle s'humanisa un peu et marcha avec le progrès. Je crois que cela arrivera lorsque les juges renonceront enfin à siéger en perruque poudrée et remiseront parmi les curiosités des siècles défunts leurs oripeaux ridicules. Y renonceront-ils jamais? Le code britannique aurait certes besoin d'être remanié, car il retarde vraiment trop. Au moment où, dans le monde entier, tout est en marche vers un système social plus en rapport avec les mœurs actuelles, où chez tous les peuples les lois ont été retouchées, mais pourquoi l'Angleterre continue-t-elle à marquer le pas avec tant d'indolence? Le nouveau régime auquel j'avais été soumis, grâce au docteur Murderer, apaisa un peu mes nerfs. Les tremblements qui m'agitaient devinrent moins violents. Mais les étourdissements persistèrent, et c'était eux qui m'inquiétaient le plus, car je craignais qu'ils ne me prissent au moment où je serais en train de tourner le moulin. De plus, je faisais de la neurasthénie, ce qui ne m'a rien d'étonnant avec un régime pareil, et la confiance que j'avais eue en l'avenir m'abandonnait peu à peu. Ce qu'il m'eût fallu, c'était une cure d'air, mais peut-être deviendrait-elle aussi inutile si mon incarcération se prolongeait. Un matin que j'étais exempt de treadmill, la cloche de notre chapelle se mit à sonner tristement, à petits coups étouffés, comme honteuse d'avoir encore annoncé la mort d'un détenu. C'est effrayant ce qu'il mourait de monde à Reading depuis quelques semaines. En entendant ce glas, je me mis à pleurer. Pourquoi, j'aurais pu le dire, ce n'était pas la première fois que j'entendais tinter le gloomy, c'est ainsi que l'on appelait la cloche du temple, et jamais je ne m'étais senti ému comme ce jour-là. Était-ce pressentiment, crainte ou pitié? Je n'aurais pu le dire. Ce qu'il y a de certain, c'est que j'étais troublé au-delà de toute expression et que je souffrais le martyre. Quand le geôlier vint m'apporter ma pitance, je ne pus résister au désir de l'interroger. C'était un brave garçon qui ne dédaignait pas à certains moments de tailler une bavette avec moi. Il avait fait la guerre en Afghanistan et aimait à raconter ses exploits, comme la plupart des militaires qui ont vu le feu de près ou même de loin. « Savez-vous qui est mort ce matin ?» lui demandai-je. « Oui, dit-il à voix basse, car œil de crabe rôdait dans les environs. « C'est le numéro 34. »« Le 34 ? Oui, celui qui était votre voisin de cellule il y a quelques jours encore. Oh, il paraît qu'il a eu une mort affreuse. Il était devenu comme fou et on a été obligé de lui mettre la camisole de force. Certes, le pauvre diable est plus heureux comme ça. Au moins, il ne souffre plus. » Et le geôlier, qui avait encore conservé la faculté de s'émouvoir, sortit en disant « Ben, il avait pourtant l'air d'un bon garçon. C'était doux comme une petite fille et si poli, sûr qu'on lui pardonnera là-haut. » Je me jetai sur mon lit et me mis à sangloter. « Pauvre Crafty, pauvre Crafty !» Ainsi c'était lui. Ah, je m'expliquais maintenant pourquoi cette maudite cloche m'avait tant troublé. Il y avait entre Crafty et moi un lien que la mort elle-même n'était point parvenue à rompre. Et par une sorte de télépathie indéniable, nos deux âmes communiaient étroitement dans la religion du souvenir. Sa pensée était venue à moi à travers les murs de la prison, et la mienne, maintenant, allait à lui. Pauvre Crafty! Il ne me trompait pas quand il disait qu'il n'en avait plus pour longtemps et me suppliait de hâter notre évasion. Il sentait déjà venir la mort et croyait l'éviter en fuyant, comme si l'on n'échappait jamais à la rôdeuse de Reading lorsqu'elle vous a une fois marqué de son doigt fatal. Ainsi, mon camarade était mort, mort sans que je puisse rien faire pour lui, moi qui aurais tant désiré lui être utile. Et c'était à ce malheureux que je devais ma fortune. C'était grâce à lui que j'avais retrouvé mon diamant. À quelques jours de là, le directeur, suivi du surveillant général et d'un gardien, entra dans ma cellule. Ces trois visiteurs avaient la mine sévère et je vis tout de suite qu'il allait se passer quelque chose. « Fouillez partout !» commanda le directeur. Immédiatement, le surveillant et le gardien se mirent à bouleverser mon lit, à palper ma paillasse et mon traversin, puis ils examinèrent le parquet, introduisant la lame de leur couteau entre chaque rainure. Ensuite, ils cherchèrent derrière la planche qui gardissait la fenêtre, et je tremblais qu'ils ne découvrissent mon diamant, mais il était tellement bien dissimulé qu'il échappa à leur regard. Le directeur vint alors se planter devant moi et demanda d'un ton dur « Où sont vos bottines ?» Je feignis le plus profond ahurissement, puis ôtant une de mes pantoufles, je lui montrai en disant « Ben voilà, monsieur le directeur !» Il eut un haussement d'épaule. « Ce ne sont pas vos sandales que je veux voir, ce sont vos bottines !» Je pris un air complètement idiot et répondis en roulant des yeux stupides. « J'ai pas de bottines, monsieur le directeur. J'en ai eu autrefois, mais on me les a enlevées quand je suis entré ici. » « Oui, mais c'est de celles-là que je veux parler. Elles ont disparu. Un complice les a volées dans le magasin et vous les a remises. » « Et comment, fis-je, aurait-il pu me les remettre sans qu'on l'aperçût ? Et puis qu'en aurais-je fait ? Elle contenait sans doute quelque chose que vous teniez à ravoir. Monsieur le directeur, je ne comprends rien à tout cela. Cependant, vos bottines ont disparu. Mais alors, je ne sais pas plus que vous ce qu'elles sont devenues. Le directeur, qui ne m'avait jamais pardonné de lui avoir ri au nez lors de notre première entrevue, me regarda en clignant de l'œil, en faisant aller sa bouche d'une oreille à l'autre, stick qui lui était familier et que la colère semblait exagérer encore, puis il me menaça gravement de son index en bégayant. « Prenez garde, sacripant, prenez garde !» Je courbai la tête sans répondre. Il sortit, suivi de ses deux subordonnés. Je l'entendis qui disait dans le couloir. « Oh, c'est pas fini, cette affaire-là. Non, non, c'est pas fini. Faudra bien que je la tire au clair. » Je devinais sans peine ce qui s'était passé. Le pauvre Cafty, dans son délire, avait dû parler. Un gardien avait surpris ses paroles et en avait référé au directeur qui avait immédiatement ordonné une enquête. Elle avait abouti à la constatation que l'on sait, et maintenant, tout le personnel de Reading cherchait mes bottines. Cet incident n'était pas fait, on le suppose, pour hausser la moyenne de mes notes et me valoir la cote d'amour sur laquelle comptait le pasteur. Je m'aperçus que l'on redoublait de surveillance et qu'un œil était continuellement fixé sur moi, un œil vert, sans éclat, mauvais et sinistre, qui me donnait le frisson. « Cela va mal pour vous, mon fils, » me dit le pasteur à quelque temps de là. « Je viens de consulter votre dossier et je me suis aperçu qu'on y avait ajouté quelques lignes vraiment regrettables. Je doute que, maintenant, nous puissions obtenir facilement votre libération conditionnelle. C'est dommage, oui, c'est vraiment dommage, car l'affaire était en bonne voie et vous arriviez presque en tête de liste. Ah, quel malheur, mon Dieu, quel malheur! Vous n'aviez plus que quelques mois à attendre. » Le plus navré, c'était certainement moi, et je tombais à partir de ce jour dans un douloureux abattement. Ainsi, je sombrais au moment d'atteindre le port. J'étais brusquement replongé dans l'abîme. Si cuirassé que je fusse contre l'adversité, je supportais difficilement ce coup-là. Mon diamant ne suffisait même plus à me consoler. Il y avait des moments où je le chargeais de toutes les malédictions. Je n'avais que du malheur depuis que je m'en étais emparé. Tout s'était effondré autour de moi et je finissais par croire qu'il était ensorcelé. Ah, j'étais bien puni de mon ambition. J'avais voulu conquérir la fortune, mener une vie calme, paisible, redevenir un honnête homme, et j'avais chaque jour roulé, d'échelon en échelon, jusqu'au fond du gouffre où s'éteignent tous les espoirs. Moi, qui avais réussi les plus dangereux cambriolages, moi, qui avais toujours glissé avec une adresse merveilleuse entre les mains de la police, j'étais arrivé à me faire prendre comme le dernier des débutants, alors même où j'avais si vaillamment gagné ma retraite. Je finissais par croire qu'il y a sur terre une somme de bonheur dont on peut disposer à un certain moment de la vie, mais que l'on ne retrouve jamais une fois qu'on l'a épuisé. J'avais, comme on dit, mangé mon pain blanc en premier. Maintenant, je goûtais au pain amer de l'adversité. Ma vie d'aventure avait pris fin, et au lieu des espaces ensoleillés prometteurs de délices infinies dont je rêvais encore quelques semaines auparavant, je voyais se dresser devant moi un grand mur sombre, infranchissable, dont la crête se perdait dans le ciel gris. Ma pensée se reportait sans cesse au cimetière de Reading où dormait mon pauvre Crafty, et il me semblait entrevoir au milieu des herbes folles une petite croix de bois noir avec cette courte inscription en lettres blanches « Here lies Edgar Pipe. » Ici repose Edgar Pipe. Je me faisais l'effet d'un vieillard accablé d'infirmité qui souhaite la mort afin de ne plus souffrir. Quand on en est arrivé à ce fâcheux état d'esprit, rien ne saurait plus vous émouvoir. Il y eut encore une exécution à Reading, celle d'un nommé 148, qui avait, dans un accès de rage, étranglé un geôlier. Eh bien, le croirait-on, j'enviais le sort de ce condamné. Le pasteur m'avait pris en pitié. Il venait chaque jour me lire la Bible, mais cette lecture, au lieu de me consoler, me rendait fou furieux. On voit à quel degré de mécréance j'étais descendu. Mon fils, me dit un soir le ministre, je considère que mes visites sont inutiles. Et il s'en alla, navré, après un grand geste de suprême miséricorde. Le lendemain, je le faisais appeler. C'était le seul être humain avec qui je puisse causer, et si sa présence et ses lectures m'étaient pénibles, son absence l'était davantage encore. Il me fallait quelqu'un à qui me raccrocher, car je sentais bien que si je ne voyais plus personne, j'allais finir par me tuer. Le sinistre providentiel. Le printemps était revenu et le soleil qui visitait de temps à autre ma cellule, oh bien peu, quelques minutes seulement, ne fit qu'aggraver ma peine. Sa lumière, au lieu de me réchauffer le cœur, me rendait plus triste que jamais, car elle me rappelait la vie que je cherchais à oublier. Je me cachais la figure dans mes draps pour ne point le voir, mais je crois que jamais il ne brilla plus que ce printemps-là. L'Angleterre elle-même semblait s'être débarrassée de ses éternels brouillards. Je me sentais descendre de jour en jour, et j'avais conscience d'être devenu complètement une brute. Quand il se produisit à Reading un événement que les journaux enregistrèrent sous le mot de « sinistre » et qui eut sur ma destinée le plus heureux effet. Une nuit, le feu prit à la prison. Il débuta par les magasins, les ateliers, et malgré les efforts des firemen accourus de Londres et des environs, se propagea jusqu'au bâtiment cellulaire. On ouvrit aussitôt les portes de nos box, et le directeur donna l'ordre de nous conduire dans la cour. Je pris mon diamant, le fixai à la hâte au moyen d'un nœud dans la pend de devant de ma chemise et suivit mes compagnons. Une fois que nous fûmes dans le grand yard pavé qui s'étend devant la chapelle, on s'aperçut tout à coup que l'on avait oublié d'évacuer les prisonniers qui se trouvaient à l'infirmerie. Il y eut alors une minute d'affolement parmi le personnel. En présence du danger qui menaçait les pauvres malades, j'avais retrouvé toute mon énergie et j'étais redevenu, par un phénomène que j'attribue à une subite excitation nerveuse, l'Edgar Pipe des anciens jours. Sans que personne me l'eût commandé, je m'élançai avec les firemen dans la fournaise, gravis en courant un escalier que les flammes commençaient à lécher, empoignai dans mes bras un malheureux immobilisé dans son lit, le descendit rapidement dans la cour et retournai ensuite, au risque de me faire griller, en chercher un autre. À la fin, comme personne n'osait plus s'aventurer dans l'escalier en feu, je me dévouai aux applaudissements de tous et fus assez heureux pour amener le dernier malade, un vieillard paralysé, que la terreur rendait fou et qui poussait des cris déchirants. Je n'étais que légèrement brûlé aux mains et aux bras, car pour pénétrer dans le brasier, j'avais eu soin de m'envelopper d'une couverture mouillée. Je fus le seul, avec deux autres détenus, à coopérer au sauvetage et chacun s'accorda à reconnaître que j'avais été le plus audacieux. De l'avis même des firemen, j'étais un héros. Et mon numéro, j'allais dire mon nom, circula bientôt dans tous les groupes. À 5 heures du matin, on était enfin parvenu à noyer l'incendie. Les magasins et les ateliers avaient été en partie détruits. Quant à la maison de détention proprement dite, ainsi que le pavillon où logeait le directeur, ils étaient intacts. Par contre, le hangar qui abritait la machinerie du treadmill et celui où se trouvait la fameuse chambre de justice avaient flambé comme un feu de paille, et je soupçonne fort les détenus qui faisaient la chaîne et se passaient les seaux d'eau de n'avoir pas montré beaucoup d'empressement à protéger ces deux affreuses bicoques. J'avais eu la chance, en opérant mes sauvetages, de ne pas perdre mon diamant. Je le sentais toujours sur mon abdomen. Je le sentais d'autant plus qu'il s'était, sous l'effort que j'avais déployé, profondément enfoncé dans ma chair, où il avait même par endroits produit de légères érosions. Je m'apprêtais à prendre la file à la suite de mes compagnons que l'on allait reconduire dans leurs cellules, quand le directeur me fit appeler, ainsi que les deux autres détenus qui s'étaient en même temps que moi distingués par leur courage. Il nous félicita et eut même quelques paroles émues, assez réussies, mais ce fut moi qui recueillis la plus grande part de cette gerbe d'éloges. Numéro 33, me dit-il, vous venez en quelques minutes de racheter un passé regrettable, et je ne veux plus voir en vous qu'un héroïque et brave garçon. Dès aujourd'hui, je vais rendre compte de votre belle conduite au Lord Chief of Justice, et je ne doute pas qu'il ne vous accorde à bref délai une sérieuse réduction de peine, et peut-être votre grâce. Allez, ayez confiance. Pour vous, l'heure de la libération est proche. Et chose stupéfiante, inouïe, inimaginable, le directeur de la prison de Reading serra la main au numéro 33. C'était la première fois qu'on voyait chose pareille, et les gardiens, quand je passais devant eux, me saluèrent militairement. Au déjeuner, j'eus double ration avec une pinte de Pale Ale et une tasse de thé au dîner. On me servit une excellente oxtail soup, du roast beef avec des pickles, un pudding et du stout, et je recommençai à trouver la vie agréable. De treadmill, il n'en fut plus question. D'abord parce que le moulin ne fonctionnait plus, ensuite parce que j'étais en instance de libération et que, comme tel, je devais être dispensé de tout travail. 15 jours après, le 17 avril, où j'ai retenu la date, le directeur me faisait appeler et me lisait un long factum, duquel il ressentait que M. 33, condamné à 5 ans de hard labor pour cambriolage à main armée, bénéficiait d'une mesure de clémence et obtenait sa grâce immédiate, eu égard au grand courage et à la parfaite abnégation de soi-même qu'il avait montré en sauvant lors de l'incendie de la prison de Reading, et ce, dans des circonstances particulièrement périlleuses, les numéros 29, 56 et 127, tous trois en danger de mort. L'association d'assistance aux condamnés repentants que dirigeait le pasteur de la maison pénitentiaire, m'allouait en outre, afin de me permettre de reprendre ma place dans la société, une somme de 50 livres, payable à la caisse de l'Economa le jour de ma sortie. De plus, oh, ce n'est pas fini, la Fondation évangélique de Londres me faisait don de 20 autres livres et l'Armée du Salut de 5, total 75 livres, qui ajoutait à ma masse, laquelle se montait à 16 livres et aux 80 livres de Miss Mellis dont je gardais la propriété, portait mon avoir à 171 livres. Je trouvais que ce petit dédommagement était assez juste et que, somme toute, il y avait encore de braves gens en Angleterre. La santé m'était revenue tout d'un coup, et j'attendais avec une impatience que comprendront tous ceux qui ont comme moi tâté de la prison l'heure de ma levée d'écrou. Elle arriva enfin. On me rendit les effets que j'avais, on s'en souvient, achetés à si bon compte au magasin Robinson & Co. Mais comme je n'avais plus de bottines, le pasteur voulut bien me faire cadeau d'une paire qui ne m'était plus, et je me trouvais de nouveau habillé en gentleman. Je devais à la vérité avoir l'air plutôt triste avec ma tête rasée, mon chapeau défoncé, mes habits chiffonnés et mes larges chaussures à bout carré. Mais quand on a porté pendant près de 3 ans la combinaison ornée de fleurs de trèfle qui est l'uniforme des prisons anglaises, on n'a pas le droit de se montrer difficile. D'ailleurs, on arrive après un long séjour en cellule à ne plus avoir, faute de glace, la notion de l'élégance. Lorsque je franchis le seuil trop hospitalier de la prison de Reading et que je me trouvais dans la rue, que je vis autour de moi des hommes, des femmes, des enfants, des chiens, des chevaux, des autos, je demeurai un instant ébloui comme un hibou surpris par l'aurore, mais presque aussitôt je me ressaisis et jetai un rapide coup d'œil autour de moi. Bientôt j'eus un soupir de satisfaction, car je venais d'acquérir la certitude que Manzana n'était point parmi les passants qui m'environnaient. Cela m'encouragea à me rendre à Londres. C'était encore là, ma foi, que je serais le plus en sûreté. « Pardon, la gare ?» demandai-je avec une extrême politesse à un gros policeman qui trônait au milieu d'un refuge comme un Bouddha sur un piédestal. L'homme eut un regard ironique et répondit en me toisant des pieds à la tête « Ah ah, on sort du bocal, hein ? Riche idée, voici la belle saison. Et alors comme ça, on retourne à Londres voir ses amis. Et on va s'en donner tant que ça pourra jusqu'à ce qu'on revienne ici. Pardon, sœur, répondis-je très digne, je vous ai demandé le chemin de la gare. Le policeman s'inclina cérémonieusement. Gentleman, excusez-moi, vous êtes sans doute le prince de Galles. Oh, pardon, je m'étais mépris. Tout le monde n'est pas physionomiste. La gare, elle est là, devant vous. Mais je dois prévenir votre excellence que le train de Londres vient de partir et que le prochain est à 5h54. Imbécile, pensai-je en tournant les talons. Ainsi, à peine rendu à la liberté, j'étais déjà la risée des gens de police. Ce premier contact avec le monde civilisé m'avait désagréablement impressionné, mais je n'étais pas au bout de mes surprises. Un peu plus loin, un bon bourgeois, tenant par la main un petit garçon, me désigna au gamin qui fixa sur moi des yeux effarés. Sur le pas des portes, les boutiquiers me regardaient avec mépris, et j'entendis l'un d'eux dire à son voisin « Bon, les relâches donc tous à la prison de Reading, cela promet, la rubrique des faits divers m'a pas chômé. » Je trouve, répondit un autre, que l'on est trop indulgent pour ces oiseaux-là. Oh, si j'étais quelque chose dans le gouvernement, je proposerais une bonne loi qui nous débarrasserait pour longtemps de canailles pareilles. La voilà bien, la charité sociale. Un homme sort de prison, il ne trouvera personne pour lui tendre la main. Personne ne l'aidera à se relever. Il expira sa réhabilitation plus durement que son crime. Et l'on s'étonne après cela qu'il y ait tant de récidivistes. J'étais, je l'avoue, quelque peu refroidi, et moi, qui avais quitté Reading avec de bonnes pensées plein la tête, je commençais à sentir la haine s'amasser dans mon cœur. En passant devant la glace d'une devanture, je me regardais à la dérobée et j'eus peine à me reconnaître. Comment, c'était moi ? Cet individu grotesque et repoussant. C'était moi, cet affreux cheminot à la peau couleur safran, aux yeux caves et farouches, à l'allure minable et inquiétante. Ah, je comprenais maintenant pourquoi tout le monde me regardait. Je mettais une tache sombre sur la gaieté de la ville. Pour ces gens paisibles, j'étais le vagabond dont il faut se méfier, le spectre du mal. L'homme prêt à tout, le fauve redoutable, sorti de la ménagerie de Reading. À la gare, dès que j'eus pris mon billet, un employé m'invita poliment à ne pas stationner dans la salle d'attente, et comme je m'étais réfugié sur le trottoir, un policeman m'ordonna de descendre sur la chaussée. Un autre détenu, qui avait été libéré en même temps que moi, arpentait librement, la pipe à la bouche, la cour de la gare, et personne ne faisait attention à lui. Cela m'étonna tout d'abord, mais je finis par comprendre. Cet homme portait un costume d'ouvrier, et il y en avait 20 comme lui qui attendaient le train. Rien ne le différenciait de ceux qui l'entouraient, et il avait l'air d'être de leur compagnie, tandis que moi, avec ma pelisse sous le bras, ma jaquette chiffonnée, mon chapeau déformé, ma chemise fripée qui, faute de double bouton, bâillait sur la poitrine, j'attirai immédiatement l'attention des passants. Des centaines d'yeux étaient braqués sur moi et je sentais le rouge de la honte me monter à la face. Oh, si jamais j'ai désiré voir la nuit arriver, ce fut bien ce jour-là. Ce jour-là aussi, je pus mesurer la profondeur de la mufleurie humaine.